une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de Californie, de SDIS et de sommeil.
C'est un bruit et une vision qui deviennent de plus en plus fréquents. Des forêts entières attaquées par des feux non contrôlés, des habitants et des touristes qui fuient par centaines pour se protéger du brasier, et des pompiers qui se battent contre les flammes, armés de leur meilleur allié, l'eau. Au moment où nous écrivons ce podcast, en juin 2023, les flammes ont déjà fait leur retour en Europe et dans le monde. 3000 hectares ont déjà brûlé en Espagne et près de 5 millions au Canada. En France, 1000 hectares ont brûlé dans les Pyrénées-Orientales en avril dernier et début juin, une partie de la forêt des Vosges est également partie en fumée. Alors, l'été 2023 sera-t-il pire que l'été 2022? Car les souvenirs de l'année dernière restent dans toutes les têtes françaises. 70 000 hectares partis en fumée, de la Bretagne au Jura en passant par les Landes et les Bouches-du-Rhône. Territoire le plus touché, la Gironde et ses forêts de pins. Au niveau national, le bilan est 7 fois plus important que la moyenne des 15 dernières années. En Europe, 2022 est un record. 785 000 hectares ont brûlé. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Car si ces incendies sont principalement d'origine humaine, le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse extrême qu'il implique démultiplient la mèche. Selon une étude publiée en février 2022 par un panel d'experts, les feux de forêt augmenteront dans le monde de 30% d'ici 2050 si rien n'est fait. Et d'ici cette même date, la moitié, voire plus, du territoire français sera à risque.
C'est la caca, c'est la cata, c'est la
catastrophe.
La catastrophe, merci de suivre, mesdames.
Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est inquiet. D'ailleurs, il a récemment lancé un plan pour la prévention et l'urgence. Alors, nous sommes dans un podcast économique, donc nous allons aussi nous poser des questions économiques. Combien ça coûte, les feux de forêt? Dépense-t-on assez pour la prévention et l'urgence? Et ces feux mettent-ils des secteurs économiques en danger? Les feux de forêt vont-ils brûler notre économie?
Tout d'abord, Robin, peux-tu nous dire combien ont coûté les feux de forêt de 2022?
Alors, je vais pas te mentir, c'est difficile à dire. Parce que les coûts sont nombreux. J'en ai justement discuté avec Simon Jean. Il est doctorant au CIRED, le Centre International de Recherche en Environnement et Développement.
Pour estimer ces coûts, en fait, il y a des choses qui sont très difficiles à mesurer. Il y a des choses qui sont plus faciles. Donc, par exemple, on peut commencer avec les choses les plus simples, comme les dommages, en l'occurrence en France l'année dernière, sur les forêts commerciales qui ont été brûlées et le manque à gagner. On peut aussi penser aux maisons, aux bâtiments, notamment certains campings qui ont été détruits. Et ça, c'est des pertes en capital. Donc, on peut mesurer. Dans le cas des feux en Gironde l'an passé, en termes de filière économique, on parle de dizaines, voire de centaines de millions de pertes en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a des coûts liés, basiquement, on se dit, bon, bah voilà, il y a des feux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des pompiers. Bah, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, les estimations sont un petit peu plus variables, mais les chiffres que j'ai trouvés les plus convaincants sont autour de 100 millions d'euros l'année passée. Et ensuite, il y a tout un ensemble de choses dont la quantification est très difficile.
Par un ensemble de choses, il parle notamment des conséquences sur la santé des populations, car oui, les feux de forêt dégagent tout un tas de substances, notamment des particules fines dangereuses pour la santé. Il faut savoir que selon l'OCDE, au niveau mondial, la pollution de l'air due aux incendies de forêt est associée à 340 000 décès prématurés par an. Et avoir une partie supplémentaire de la population en mauvaise santé, c'est des coûts économiques. D'ailleurs, à ce sujet, une étude publiée dans le magazine scientifique Nature revenait sur les feux de forêt monstrueux qui avaient touché la Californie et 354 000 hectares en 2018. Résultat, l'exposition à cet air pollué aurait coûté environ 28 milliards de dollars en raison d'atteinte à la santé. Ensuite, vous avez les conséquences psychologiques qui, elles aussi, ont des impacts immenses sur les travailleurs et travailleuses. Comme le note un rapport du programme des Nations Unies, l'expérience traumatisante d'être pris dans un incendie de forêt, d'être parfois déplacé ou de perdre sa maison, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale à long terme. Et ce n'est pas tout. Vous avez bien sûr les conséquences environnementales. Et oui, les feux de forêt dégagent de grandes quantités de CO2 quand elles brûlent et sur la biodiversité. Et ça, ça a un coût pour la société dans son ensemble.
D'accord, mais on n'a aucun chiffre là-dessus en France?
Eh bien non, seulement des estimations. Celles-ci doivent être interprétées avec beaucoup de précautions. C'est ce que disait en 2009, non sans regret, la Cour des comptes. Je cite, « Le recensement, l'identification et l'estimation des coûts induits par les catastrophes naturelles présentent d'importantes lacunes. Les conséquences économiques à court et moyen terme des feux de forêt sont presque totalement ignorées. » Depuis lors, selon un récent rapport du Sénat, peu de choses ont évolué.
C'est toujours la même merde, hein ?
Et au niveau européen ?
Alors, en janvier dernier, le commissaire européen à la gestion des crises, Yanis Lenarchi, Lucic expliquait que les dommages liés aux incendies de forêt en 2022 étaient d'au moins 2 milliards d'euros. Ici, je précise que l'on ne parle que des dommages. Ce chiffre semble être sous-estimé. Pourquoi ? Je rappelle les chiffres. En Europe, en 2022, environ 800 000 hectares ont brûlé. En 2018, en Californie, c'est 354 000 hectares. Selon les estimations de l'étude Nature, citée plus haut, l'incendie californien aurait coûté 28 milliards de dollars en pertes matérielles et de capital. Alors, soit le premier chiffre est sous-estimé, soit l'autre est surestimé, soit en Europe, le placement des forêts, loin des habitations et des entreprises, est meilleur, l'intensité des feux moins forte et l'intervention d'urgence des pompiers européens plus efficace. Difficile de dire quelle réponse est la bonne. On peut croire tout de même que ce chiffre de 2 milliards est largement sous-estimé. Enfin, j'ajoute une dernière chose. L'étude californienne prend aussi en compte les pertes monétaires indirectes dues à ces incendies, c'est-à-dire les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement régionales et nationales. Elles sont estimées à 89 milliards de dollars pour l'incendie de 2018. Et sur ça, en Europe, on a peu ou pas du tout de chiffres.
Encore ? Ça fait beaucoup là, non ?
D'ailleurs, Romain, par rapport à ça, la multiplication des feux de forêt va-t-elle ruiner certains secteurs de l'économie ?
On peut s'intéresser aux deux secteurs qui semblent à première vue les plus touchés. Le bois et le tourisme. Selon l'ONICEP, l'Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions, le secteur du bois représente en France environ 400 000 emplois directs et indirects et 60 milliards de chiffre d'affaires. Énorme donc.
C'est énorme.
Cependant, et contre toute attente, la filière bois n'a pas été trop touchée, explique un autre rapport sénatorial. Pourquoi ? Première explication avec un exemple. Dans le cas des incendies de Gironde, en juillet 2022, 20 000 hectares ont brûlé. Bien sûr, ça a été douloureux pour certains propriétaires, c'est une évidence. D'autant que pour eux, il faudra à replanter des arbres qui seront coupés dans des dizaines d'années. Mais cet incendie représente moins de 1,5% des surfaces du massif des Landes de Gascogne. Donc, il reste des arbres. En revanche, avec l'augmentation potentielle des surfaces brûlées, ce paramètre est amené à évoluer. Deuxième explication, les massifs touchés par les incendies ont été jusqu'à présent des forêts faiblement productives. L'extension probable vers le nord et l'ouest des zones à risque constitue la menace la plus sérieuse pour la filière bois. Et enfin, pour le moment, le cours du bois n'augmente pas. Simon Jean.
Dans ce que moi j'ai recensé dans mes rencontres et dans mes lectures, il y a quand même de nombreux responsables de syndicats forestiers, etc., qui sont alarmés l'année dernière, en tout cas des pertes plutôt dramatiques qu'ils allaient essuyer. Après, c'est un peu leur métier aussi de dire que les pertes vont être dramatiques. En tout cas, moi, ce que j'en ressens pour l'instant et de ce que je vois dans les données, les cours changent pas tout de suite. Notamment parce que finalement, ces incendies, pour l'instant, ils touchent une partie relativement restreinte du massif forestier français, qui fait qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement qui peuvent absorber ce choc. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont liés au changement climatique et donc qui vont impacter les incendies, qui font qu'il y a un risque un peu structurel qui se pose sur le massif forestier français, notamment pour les espèces invasives qui augmentent la mortalité dans les forêts. Et quand on a des arbres tout secs, si jamais il y a un feu, ça devient plus compliqué. Donc, si on veut, en économie, on a un peu toujours cette idée que s'il y a un choc isolé quelque part, le marché va l'absorber. Ce qui n'est pas complètement faux, à moins que le choc soit énorme. Par contre, si les chocs ensemble sont de plus en plus corrélés et leur fréquence est de plus en plus élevée, effectivement, le marché et les cours afférents à ce marché vont être amenés potentiellement à bouger, quoi.
À voir dans le futur, donc.
Et pour le tourisme ?
Alors, sur ça aussi, on a peu de chiffres, décidément. Mais on peut en dire un mot. Selon les pompiers, en une semaine en juillet 2022, en Gironde et dans les Landes, 16 200 vacanciers ont dû plier bagages en urgence. De plus, les 5 campings du Villa-sur-Mer ont brûlé quasi intégralement. Heureusement, sans faire de victimes. Le sud de la France et notamment les régions proches des forêts seront-elles désertées par les vacanciers ? Ce qui est certain, c'est que ce secteur, le tourisme, devra se réinventer face aux conséquences du réchauffement climatique. Tous les experts le disent.
Bon, on sait que l'année 2023 et celles qui vont suivre risquent d'être aussi très difficiles et très coûteuses. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure des enjeux ?
Alors oui, le gouvernement a récemment annoncé un plan pour l'été 2023. Il veut 9 avions et hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires portant le nombre d'appareils français de 38 à 47. Objectif, mieux détecter les feux et agir le plus vite possible. Ensuite, environ 500 pompiers militaires seront basés en Nouvelle-Aquitaine. L'objectif sera aussi de sensibiliser. Aujourd'hui, l'activité humaine est la principale cause de déclenchement d'incendies, que ce soit du fait d'une activité économique, chantier, activité agricole, ou bien d'une activité du quotidien, mégots de cigarettes, barbecue ou feu de camp. L'idée est donc de renforcer les sanctions et de prévenir la population des risques via une météo des feux. Enfin, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs assuré que 180 millions d'euros seront alloués aux services départementaux d'incendie d'incendie et de secours, SDIS, qui s'occupe des pompiers et permettrait l'achat de 1100 engins de lutte contre le feu. À ce stade, il est difficile d'estimer les coûts de toutes ces mesures pour lutter contre les feux, d'autant que plus tôt dans l'année, d'autres fonds ont aussi été débloqués par le ministère de l'Agriculture.
Mais est-ce que ce sera suffisant pour protéger les forêts françaises cette année ?
Alors là encore, c'est difficile à dire. Pour certains, cela permettra de limiter ces catastrophes, pour d'autres, les moyens ne sont pas là. Ce qui semble sûr, en revanche, c'est qu'il faudra prendre des mesures de long terme et notamment avoir plus de pompiers.
C'est-à-dire ?
Eh bien, selon l'Agence environnementale des Nations Unies, en nombre de pompiers, la France est en queue de peloton au sein de l'UE. La Fédération française des sapeurs-pompiers et un rapport sénatorial estiment qu'il faudrait 50 000 nouveaux volontaires d'ici 5 ans. Pourquoi faire ? Eh bien, pour assurer l'ensemble des missions. Les incendies en tout genre représentent 7 à 8% des interventions des pompiers. Un chiffre assez important si l'on regarde à l'échelle d'une année. Mais les pompiers passent 71% de leur temps dans les secours aux victimes. En revanche, les feux sont les plus onéreux en matériel, avions, camions, carburant, etc. et en moyens humains. En effet, les feux de forêt mobilisent le plus de sapeurs-pompiers. En moyenne, il faut 21 pompiers pour une heure d'intervention, tandis que les secours à victimes mobilisent 2,9 pompiers. Donc, pour gérer toutes ces interventions, il faudrait mieux financer les SDIS et peut-être mieux considérer et rémunérer les pompiers.
Pourquoi ? Les pompiers sont si mal payés ?
Alors là, on peut donner quelques chiffres. Tout d'abord, il faut savoir que 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas de salaire, mais une indemnisation. Celle-ci se situe entre 8 et 12 euros de l'heure en fonction du grade. On est d'accord, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, sur fond de crise et après un été 2022 très chargé, le montant de l'indemnité horaire des volontaires a été augmenté en moyenne de 3,5%. Les pompiers professionnels, eux, sont payés entre 1650 et 4500 euros bruts par mois en fonction de leur grade et leur ancienneté. En plus de tout ça, les pompiers pros touchent toute une série de primes. Alors, pour attirer encore plus de pompiers, 50 000 nouveaux volontaires, je rappelle, faudra-t-il augmenter les salaires et l'indemnisation ? Y a-t-il un problème d'attractivité du métier ? Je laisse la réponse à Marc Riedel. Il est pompier volontaire et sociologue.
Ce que je peux dire, les problématiques de recrutement sont, un, dues effectivement aux budgets qui sont pas extensibles. Donc, d'un point de vue professionnel, si vous regardez un poste de sapeur-pompier, pour le tenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 sur 365, il vous faut à peu près 5 pompiers, 5, peut-être 6, pour le tenir de mémoire. Donc, à chaque fois que vous faites un recrutement et qu'ils vous disent « on va rajouter un pompier », en fait, vous multipliez par 5 la dépense. Donc, ça, c'est quelque chose, parce que 365 jours sur 365 et 24, à coût de 35 heures, vous faites vite le calcul. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a une pénibilité qui s'installe parce que les effectifs stagnent. Les interventions sont de plus en plus difficiles avec une population qui est de toute façon à cran par rapport à ces conditions-là. C'est également, je pense pas que ce soit un manque d'attractivité parce que chez les pompiers, on a la chance d'avoir un métier qui est difficile, mais qui a du sens. On a charge d'âme, on n'est jamais tout seul, donc on est toujours en équipe.
Un métier effectivement très difficile qui pèse sur le sommeil, sur la vie privée et professionnelle, notamment pour les volontaires, et sur la santé. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé classe l'exposition professionnelle des pompiers dans le groupe 1 des agents cancérigènes, notamment à cause des incendies.
Et l'État peut-il embaucher plus de pompiers et mieux les rémunérer ?
Alors oui, bien sûr, mais comme le disait Marc Riedel, cela risque de coûter cher. Mais il peut le faire. Enfin, pas directement. Il peut par exemple donner davantage de subventions aux collectivités territoriales, car ce sont elles qui financent les SDIS. Simon Jean.
Tout d'abord, les pompiers, etc., c'est financé au niveau des collectivités locales. Ça se voit notamment quand on fait un peu l'examen des lois de finances. On voit que les dépenses qui sont liées aux pompiers sont bien moindres que ce qu'il y a déclaré dans la loi de finances, et ça, c'est parce que c'est les collectivités locales qui le financent. Et puis, l'État et l'administration centrale financent les missions de la sécurité civile, donc ça implique d'acheter des avions, des hélicoptères, et j'imagine, je ne connais pas très bien comment ça se déroule, mais peut-être certaines interventions plus spécifiques qui sont également financées par l'État.
En gros, retenez une chose. Les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, là où se trouvent et sont gérés les pompiers, sont financés en grande partie par des dépenses locales. Départements, communes, communautés de communes, etc. C'est-à-dire que les budgets varient en fonction des SDIS. D'autant que l'État ne les finance que très faiblement. En revanche, lui s'occupe des pompiers militaires, des hélicoptères, des avions bombardiers d'eau qui effectuent des missions de guet aérien pour intervenir rapidement.
Alors, pour conclure, peut-on dire si tous les moyens techniques et humains permettront de limiter les incendies cet été ?
Alors, au moment où ce podcast est enregistré, nous sommes au milieu du mois de juin. Difficile à dire donc. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, la France contrôle bien les incendies de forêt. Tous les rapports sénatoriaux le disent. En revanche, la donne est nouvelle et les effets du changement climatique deviennent de plus en plus présents. Alors, nos services et les pompiers sont-ils prêts pour ce changement? Sur cette question, deux visions se croisent. Certains SDIS, celui de la Meuse par exemple, sont réellement inquiets, notamment face à des budgets qu'ils jugent insuffisants. D'autant que l'inflation rend également les opérations des pompiers plus chères. On rappelle encore une fois que les budgets varient en fonction des SDIS. D'autres experts sont légèrement plus optimistes. C'est notamment le cas de Marc Riedel.
D'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de l'organisation, je dirais qu'on a, on a la formation et oui, nous sommes prêts. La seule question, en fait, aujourd'hui, c'est le degré d'engagement, la durée de ces engagements, l'intensité de ces engagements qui va changer. Ces dernières années, ça a commencé avec le feu de Gonfaron dans le Var, qui a fait plusieurs dizaines de milliers d'hectares, je crois, hein, de mémoire. Et puis, la même chose avec les feux de Landiras cet été. On a vu qu'on ne serait plus dans des campagnes cantonnées au sud de la France habituellement. Et on a vu également l'an dernier des feux à des endroits un peu inhabituels, en Bretagne, à Vouglans. Là, je pense qu'effectivement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux en matière de prise de conscience des risques de rupture capacitaire. On s'y prépare, hein. On n'est pas à la ramasse du tout, pour être franc avec vous. Par contre, c'est un véritable effort parce que aujourd'hui, quand on regarde inflation prise en compte, l'évolution des moyens des sapeurs-pompiers depuis à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années, ça bouge pas tant que ça. Et on a ressources constantes. La question, c'est comme cet été, vous avez vu à Landiras, on a réussi à faire face. Par contre, ça, c'est à quel prix? En fait, pour moi aujourd'hui, pas forcément économique, pas forcément en matière de moyens, mais en matière de fatigue. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui confine un petit peu à de l'ultra-endurance. Donc là, on passe d'une dimension, on va dire, d'une course d'endurance classique, d'un petit cross qui fait une dizaine de kilomètres, à de l'ultra-trail. Et ça, c'est pas les mêmes efforts à gérer.
Un regard nuancé, donc. Pour avoir un avis plus critique, mais que partage aussi notre invité, on vous laisse lire les travaux du sociologue Romain Pudal. En plus de gérer l'urgence, il faudra aussi préparer nos forêts. De cette nouvelle gestion de la forêt, Emmanuel vous a déjà parlé en mars 2021 dans son épisode. Y a-t-il trop d'arbres dans les forêts françaises? Dans celui-ci, il vous parle des enjeux de nos forêts, de leur potentiel, mais aussi des possibilités pour mieux les gérer et les préparer aux conséquences du réchauffement climatique. Il faudra par exemple penser différemment l'usage et le traitement des forêts, peut-être sortir de la monoculture et aménager davantage de routes forestières dans les massifs pour permettre aux pompiers d'agir plus vite. Sauf que ça aussi, ça va coûter des sous. Pour en savoir plus sur ce sujet, on vous laisse regarder aussi la super vidéo du Monde, Feux de forêt, la France est-elle prête? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les feux de forêt vont augmenter. Et si la planète veut s'y préparer, elle devra mettre les moyens.
Merci Romain pour cet épisode, le dernier de cette saison. On espère que vous l'avez apprécié et que vous serez de nouveau avec nous à partir de septembre où on reprend nos travaux avec plein de nouveaux sujets. Vous pouvez nous en proposer d'ailleurs. Merci à toute l'équipe pour le travail abattu cette année et à Mathilde en particulier. Merci à Nouvelles Écoutes et à l'arrière-boutique parce qu'on ne le dit jamais assez, fabriquer des podcasts, c'est un travail collectif. Et vous savez par quoi je vais finir. Si vous aussi vous aimez Splash, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Ça nous aide à être mieux référencés. Non mais sérieusement, faites-le. Ce serait bien qu'on ait encore plus de commentaires. À dans 2 mois.
Splash est un podcast de Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Akli.